mentalement survoler le territoire maya, c'est imaginer ces quelques 325, peut-être 324 000 kilomètres carrés, et c'est surtout se retrouver avec cette partie occidentale du Honduras, descendre vers le Salvador, la totalité du Guatemala, le Belize qui était l'ancien Honduras britannique, et puis tout le sud du Mexique avec l'état des Chiapas, le Tabasco, le Campeche, le Yucatan aussi, et le Quintana Roo, un Quintana Roo qui était vierge il y a quelques années encore. Alors si je parle de ce même territoire dans l'actualité, on remarque qu'il y a à peu près 2,5 millions de personnes qui habitent cette superficie, et je vous dirais que c'est pratiquement la même quantité qui a dû vivre dans cette région aux alentours des années 700 de notre ère. Donc, si l'on regarde maintenant cet ensemble territorial, je peux vous dire aussi qu'on y parle 28 langues, 28 dialectes totalement différents, mais qui ont la même souche. Tous ces gens-là, tous ces Indiens qui vivent là, parlent maya. Le maya, c'est une langue superbe, qui est une langue agglutinante, un peu difficile à comprendre. Pour la première fois, il faut l'étudier dans différentes régions pour s'habituer à cet accent étrange. Et je vous parlais tout à l'heure de cette période où peut-être que tous les mayas avaient plus ou moins la même langue, en tout cas la même racine, bien sûr. Ceci se situe entre 250 et 900 de notre ère, à une époque où cette civilisation précolombienne va, je dirais... rendre possible l'éclosion de 60 ou peut-être même 70 cités-états, des cités-états qui vont contrôler un territoire que j'évalue à peu près à 2500 km² et qui crée une sorte d'ensemble de la pensée, de la philosophie avec une population aussi importante, je le disais tout à l'heure, que les Mayas qui parlent cette langue aujourd'hui. On pense aussi que certaines périodes, ces différentes cités-états ont été réunies dans ce que j'appellerais des états régionaux. Alors, il y a des villes, il y a des endroits qu'on peut citer immédiatement, et je pense bien sûr à ces grands centres comme Uxmal. Vous avez Coba, vous avez Calakmul, qu'on connaît mieux aujourd'hui, Palenque qui fait rêver dès qu'on le visite, et nous irons certainement ensemble à Palenque lors d'un des prochains longs cours. Il y a Yaxchilan, le long de cette rivière, de l'Usumacinta. Nous avons déjà évoqué Tikal. Aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, ce sera Copan. Peut-être 30 000 kilomètres carrés, là, si je parle de ces différents états. Tikal, que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi le fait de se rendre compte que cette mégapole de l'époque précolombienne a peut-être recouvert une surface d'un peu plus de 100 km carrés. J'aime bien les chiffres parce que ça remet les choses en place. Parce qu'évoquer par exemple une cité-état avec 100 000 habitants comme Tikal, c'est quand même impressionnant. Et quand on évoque alors Copan, eh bien moi je m'arrêterai aujourd'hui selon les toutes dernières recherches. Là, aujourd'hui ce sera un peu le scoop historique parce qu'on va découvrir à travers les hiéroglyphes, à travers les difficultés qu'ont les épigraphes à traduire cette langue étrange, ces dessins extrêmement curieux sur les stèles qu'on appelle ces arbres de pierre. Eh bien, à Copan, on pense, on évalue aujourd'hui, grâce à l'archéologie, avec des fouilles très sérieuses qui sont faites tous les X mètres afin de se rendre compte du nombre de huttes, du nombre d'habitants qui ont vécu ici dans les années 600 ou 700 de notre ère, on évalue cette agglomération à 20 000 habitants. C'est déjà pas mal. Or, je dirais que Copan, c'est la cité des arts par excellence, c'est en tout cas un endroit où on sent que le cœur bat plus fort qu'ailleurs. Il y a quelque chose d'émotionnel lorsqu'on visite ce site. Je dirais que si Tikal est peut-être New York, Copan, ce serait Rome ou Paris. Tiens, Paris irait bien comme idée pour une telle cité. Parce qu'il y a un raffinement, il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Arriver à Copan, c'est d'abord descendre dans une vallée étrange avec une rivière qui cascade de temps à autre et qui est assez forte. Et puis surtout, venir par exemple depuis Guatemala, Guatemala City et plonger sur le Honduras, passer la frontière, c'est aussi se retrouver dans une zone assez montagneuse, assez tourmentée, avec beaucoup de verdure. Et là, se retrouver dans cette plaine, c'est penser à l'agriculture, penser à la possibilité de vivre de manière très confortable. Un petit village, une petite ville endormie, un peu plus loin, le site archéologique avec des investigations, des travaux qui ont été réalisés il y a assez peu de temps, parce que on a surtout recherché depuis quelques années à réétudier tout le côté hiéroglyphique. Alors quand on pénètre sur le site, je crois que c'est la première chose qui nous touche. C'est d'abord une impression de confort, une grande place, une acropole, des pyramides, mais surtout un foisonnement artistique incroyable, une sorte d'art baroque, une sculpture en trois dimensions pour les stèles. Par exemple, les stèles, ce sont simplement des blocs de pierre qui ont pu être peints ou simplement taillés en bas-relief. Non, à Copane, il s'agit véritablement de sculptures, des sculptures qui montent à 3 mètres, 3 mètres 50 de hauteur et qui représentent des personnages. Tout à coup on devine un visage et tout autour il y a des motifs extrêmement délicats, extrêmement précis, et souvent on peut même passer les doigts ou la main entre deux parties du motif, donc on rentre dans la troisième dimension. Je veux dire par là que c'est du vrai baroque. Vous savez, quand on rentre dans une église baroque et qu'on voit tout à coup ces motifs en volute, eh bien c'est ça, Copane, c'est cela, et c'était certainement encore plus que cela. Aujourd'hui il n'y a plus que de la pierre d'un beau ton vert pâle comme ça. Voilà, une pierre qui est une diorite assez facile à travailler, mais qui a durci bien sûr avec le séchage et le soleil. Des stèles qu'on a envie de regarder de côté avec des suites de hiéroglyphes formidables, et de dos avec une décoration des plumes de Quetzal. Si j'évoque cette sculpture, je pense naturellement au baroque, mais je pense aussi à la couleur qui a dû recouvrir l'ensemble. Donc c'est peut-être l'endroit dans le monde précolombien où l'on a érigé une véritable forêt de stèles. Et j'ai bien évoqué cette idée de l'arbre de pierre qui monte vers le ciel. Et là, on a voulu démontrer, grâce à l'étude de ce lieu, de ces hiéroglyphes, que à Copane, on avait basé tout le travail du calendrier, des dates, de l'astronomie, des mathématiques, sur des recherches absolument fous. Je dirais folles, parce que on se dit que si on est capable de faire des calculs avec des millions d'années en avant ou en arrière, c'est qu'on a quand même une certaine obsession. Et ce qui est curieux, c'est qu'au cours de ces derniers mois, on a remarqué qu'il y avait des chiffres plus petits et qu'il y avait des dates extrêmement précises. Et tout à coup, on a réalisé qu'il ne s'agissait pas de sculptures de dieux ou de choses très complexes, non. Il s'agit de grands chefs, il s'agit de gouverneurs. Et quand je dis gouverneurs, c'est dans le sens maya. Parce que maintenant, on sait que ce sont des représentations d'hommes qui ont bel et bien vécu et qui souvent, pour un seul règne, ont demandé l'érection de plusieurs de ces arbres, les représentants. Tout à coup, il y a des airs de famille, il y a le fils, il y a le père, il y a toute la descendance, et on arrive aujourd'hui à créer toute une dynastie. Alors, il a fallu de nombreuses années de recherche, on balbutie depuis le début de ce siècle, et tout à coup on a remarqué qu'il y avait des naissances, des prises de possession, qu'il y avait des batailles, des conquêtes importantes, qu'il y avait des rituels, les anniversaires aussi, et finalement la mort de certains de ces gouverneurs, de ces grands chefs. J'aime bien les appeler Ahou ou Ahau. Ahau, c'est le nom du soleil, c'est le nom de la noblesse même, ce sont les fils même de ce jour, de ce soleil, de cette puissance. Et là, quand on étudie bien, grâce à ce travail des archéologues, ces différents personnages, eh bien, on arrive en même temps à créer pour la première fois de l'histoire. Et je vous dirais même que tout dernièrement, on a même trouvé sur certaines de ces sculptures, de ces bâtiments, de ces escaliers couverts de hiéroglyphes, on a retrouvé parfois la signature d'un artiste. C'est quand même quelque chose de tout à fait unique dans le monde précolombien. L'écriture, l'histoire, le fait de savoir qui a fait cela, pourquoi on l'a fait. Avouez franchement, quand on ouvre un livre et que tout à coup, au lieu d'avoir des pages blanches, l'écriture apparaît petit à petit, comme si vous avez déjà plongé une photographie dans un liquide et le révélateur qui tout à coup vous fournit le noir et blanc qui apparaît doucement, le relief, l'image, la pensée, l'histoire, je l'évoquais, eh bien nous la connaissons aujourd'hui à Copane. Remontons ensemble, une dynastie, mais je dirais aussi une volonté de régler le temps, l'espace, comme on le sait, les Mayas adoraient les mathématiques. Thank you. Sur votre gauche, en pénétrant sur cette grande place, vous avez vu ces arbres de pierre. Ils vous ont interpellé tout de suite. Ils sont alignés, ils sont arrangés. Puis à côté, il y a des autels en forme de tortue, en forme de dragon, avec des serpents. Des choses baroques, bien sûr, je les évoquais tout à l'heure. Mais plus vous avancez sur le site... Oh, un jeu de pelote. Ça, vous l'avez repéré immédiatement. Il n'y a pas d'anneau, mais il y a des descentes comme cela. Vous savez, de chaque côté, vous avez une sorte de pan incliné. Et vous devinez immédiatement cette balle de caoutchouc qui peut rebondir. Un peu plus loin, un escalier extraordinaire. On le décrira tout à l'heure. Avec, on le voit tout de suite aussi, des sculptures. Partout, il y a des petits personnages, des choses qui fourmillent. Des têtes, des points, des traits. Ce sont des hiéroglyphes. Et puis, vous grimpez sur la plus grande pyramide, enfin, vous montez sur l'acropole, les marches font carrément 40, 50 centimètres de hauteur. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a de la force, qu'il y a du pouvoir, il y a des millions de tonnes de cailloux, de pierres, entassés les uns sur les autres. Et puis, vous voyez des tunnels. Au cours de ces dernières années, les archéologues ont pénétré à l'intérieur de ces structures. Ils vont deviner, à l'intérieur du gâteau, toutes les couches du millefeuille. Ils vont remonter dans l'histoire. Et à l'intérieur du gâteau, il y aura d'autres stèles, d'autres offrandes, d'autres tombes. Vous montez, et tout à coup, vous retrouvez une place bien fermée sur elle-même. Et j'aimerais vous faire aujourd'hui visiter un seul monument. Découvrir doucement, calmement, 16 sculptures. Tout simplement, 16 sculptures qui sont alignées en 4 x 4. Alors vous avez compris, il ne s'agit pas d'une stèle, non, c'est un autel. Comment vous le faire voir ? Une table carrée de pierre, mais une table qui est en fait un gros monolithe, bien plein, de la belle matière. Cette diorite avec ce ton verdâtre, je vous le rappelle, qui avait été peint, bien sûr, ce bloc était entièrement travaillé et retravaillé même avec ses couleurs, ce stuc du vert, du bleu, beaucoup de rouge. Et quand vous vous approchez, tout à coup, de face, devant cet autel, oh, il porte une lettre. Je n'ai même pas envie de l'évoquer, il s'appelle Hôtel Q. Avouez que c'est pas très drôle, mais ça a été la pierre de Rosette de Copan. La pierre de Rosette parce que là, tout à coup, devant nous, se trouvent 16 personnages. Je me rappelle, la première fois, je suis allé à Copan dans les années 70. Eh bien, tout au début des années 70, on avait déjà une théorie incroyable qui disait que ces 16 personnages, c'étaient des astronomes qui se réunissaient là, aux alentours de 775 de notre ère, et qui avaient remis le calendrier en ordre. On avait inventé une sorte de réunion d'astrologie ou d'astronomie. Et puis non. Avec le temps, là, au cours de ces derniers mois, on a commencé à regarder un peu mieux. Regardez un peu mieux tous ces hiéroglyphes, ces milliers de hiéroglyphes de Copan. Alors approchez-vous de cet autel. Dessus, il y a une table, je l'ai dit. Mais cette table est également travaillée. On voit bien des listes de petits carrés comme cela, de formes, des sortes de cartouches réguliers, les uns à côté des autres, un peu comme si vous vouliez prendre l'idée. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? Ben, un mot croisé, vous le voyez ? Un mot croisé qui ferait le dessus de la table, et dans chacun des carrés du mot croisé, vous n'avez pas une lettre, mais vous avez carrément un ensemble de dessins, avec des affixes, des suffixes, des infixes, c'est-à-dire qu'à partir d'un hiéroglyphe principal qui représente souvent quelque chose d'assez visible, d'assez décoratif, d'assez figuratif, autour il y a d'autres petites figurations qui souvent alors ne ressemblent à rien. Un petit rond, un trait, une croix, une svastika, des choses étranges. Ou alors des points et éventuellement de petites barres placées à côté. Alors ça, c'est le dessus de la table. Mais autour, vous avez repéré immédiatement ces 4 x 4 personnages, c'est-à-dire ces 16 personnages, et immédiatement, vous cherchez un peu l'entrée du jeu, je dirais, l'endroit où vous avez envie de regarder tout cela. Et finalement, vous remarquez qu'il y a un centre, qu'il y a un lieu, c'est-à-dire que les personnages tournent par 8, si vous voulez, et que tout à coup, on les voit derrière, ils sont dos à dos, vous l'avez déjà saisi, et puis devant, il y en a 2 qui se regardent, ils sont face à face. Alors, comment est-ce qu'un Maya se présente face à un autre Maya ? Eh bien, vous allez maintenant croiser les jambes, vous allez vous asseoir en tailleur, vous allez prendre une pose extrêmement élégante, vous aurez sur la tête une coiffe bien étrange à Copan, les grandes coiffes des gouverneurs, parce que vous avez déjà deviné qu'il s'agissait de grands rois, de grands souverains de ce site, eh bien, ces gens-là portaient des coiffes qui ressemblent à des cercles concentriques comme cela, comme s'ils avaient des galettes successives sur la tête et qu'elles devenaient de plus en plus larges, et puis ensuite elles se ramassaient au sommet. C'est une coiffe très élégante, et puis sur le sommet, alors carrément à la pointe de ce cône double, vous avez des plumes, de longues plumes de quetzal qui font 40 ou 50 ou voire 60 cm de longueur. Une sorte de bouquet de plumes de paradisier. Et c'est vraiment superbe. Et à la main, chaque personnage tient un objet. Et le principal que vous voyez sur la gauche, qui a des étranges lunettes, un peu comme si on lui avait mis un masque, tient vraiment une sorte de sceptre. Et puis il fait face à un autre, comme s'il offrait ce sceptre à celui qui est en face de lui. Vous venez de comprendre, il s'agit d'un événement important. Alors, pour le décrire, il faudrait peut-être commencer par le début et voir que ces protagonistes, ces deux personnages qui sont les plus importants, je dirais que c'est le début et la fin, ça vous l'avez compris, eh bien, se trouvent placés eux-mêmes devant, ah, si on s'approche, on voit un petit point et on voit une barre. Et quand on sait lire un hiéroglyphe maya, on répond immédiatement qu'il s'agit du chiffre 6. Oui, il y a bien le chiffre 6, mais il y a aussi quelque chose juste en dessus avec deux barres. C'est le chiffre 10. Alors moi, je vais vous le dire carrément, on a lu cela comme étant 6 cabanes et 10 molles. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais en définitive, dans le système du calendrier maya, c'est véritablement une date. Une date qui nous montre bien qu'on a voulu fixer un moment dans le temps. Une cérémonie, quelque chose de particulier. Et que nous avons maintenant, face à ces deux hommes, une idée bien curieuse. C'est-à-dire, je vais l'appeler la prise de possession. Est-ce que vous comprenez mieux le geste de tout à l'heure, cette façon de passer un sceptre? Et nous allons lire en même temps le nom du personnage. Et ça, c'est fabuleux. C'est la première fois que ça nous arrive chez les Mayas, de pouvoir tout à coup retrouver toute une liste de noms. Alors, où trouver les noms? Eh bien, vous vous rappelez, nous étions assis tout à l'heure en tailleur. Juste en dessous, le siège est formé de dessins, de cartouches. Et à l'intérieur de ces cartouches, on a petit à petit commencé à creuser ces motifs et on a essayé de les traduire avec le maya d'aujourd'hui en se disant, tiens, ça ressemble à un perroquet, ou ça ressemble peut-être à un serpent, oh, ça c'est plutôt un jaguar. Donc on a petit à petit inventé des noms pour ces grands souverains. Alors d'un côté, vous avez Yakshpaksh, et puis de l'autre côté, vous avez cette date beaucoup plus complète qu'on retrouve aussi sur la table. Alors une date extrêmement curieuse que je vais vous lire comme ça. Il y a le chiffre 9, on l'a vu, il y a le chiffre 16, on le lit, le 12, le 5, le 17, et ensuite on retrouve 6 cabanes, 10 molles. Alors, c'est une suite de chiffres qui commencent avec l'unité du jour, le mois, l'année, 20 ans, 400 ans, vous repartez depuis 3114 avant Jésus-Christ, et je peux vous dire que je sais que ce bâtiment a été inauguré avec la date du 2 juillet 763 de notre ère. On est très précis maintenant, nous sommes dans un calendrier chrétien, cet hôtel a servi à quelque chose, une cérémonie, et cette cérémonie va prendre une telle importance dans l'histoire de Copan que tout à coup, on va découvrir qu'il y a eu non seulement 16 souverains, mais un moment dans l'histoire qui va résumer tout le reste de ce qui a été construit, tout le reste de ce qui a été conçu pour une cité-État qui a été glorieuse, bien sûr, mais qui a surtout gardé cette puissance de l'évocation par les hiéroglyphes qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Thank you. hiéroglyphe qui ressemble à une svastika. Vous savez, ce signe qu'on a beaucoup utilisé à l'époque nazie. Eh bien, c'est vrai que les Mayas l'ont dessiné aussi. Et ça a été une révélation incroyable parce que chaque fois, à côté de ce signe, qui n'a rien à voir, vous l'avez compris, bien sûr, avec la svastika européenne, il y avait un chiffre. Et sur notre exemple, ce sont des chiffres qui ne dépassent jamais 16. Et partout sur le site, on a remarqué ce même hiéroglyphe avec des chiffres qui vont de 1 à 16. Et petit à petit, on a compris qu'il devait s'agir de succession, qu'il devait s'agir de titre, qu'il devait s'agir d'un coefficient numérique, et que ce signe qu'on appelle aujourd'hui Hell, eh bien, c'était en fait la position du gouverneur dans une séquence historique. C'est génial! C'est génial parce que tout à coup, si je vous dis 2, 4, 5, 10, 15, 12, eh bien obligatoirement, vous savez quelle est la position du personnage qui se trouve sur la stèle. On peut citer le grand-père, on peut citer quelqu'un d'autre sur la même stèle. Attention, c'est dangereux, ce n'est pas forcément celui qui est représenté. Mais là, tout à coup, dans nos 16 personnages qui nous intéressent, 4 par 4, avec cette façon de s'affronter au centre de ce passage, eh bien immédiatement, je peux vous donner la solution. À droite, vous avez le 16e qui reçoit du numéro 1. Donc, en ayant simplement les numéros de succession, j'arrive tout à coup à pénétrer dans cette histoire de façon absolument exacte. C'est-à-dire, vous avez Louis XI, il ne peut pas naître avant Louis X. Et je vous dirais que Louis XIV, obligatoirement, précède Louis XV et Louis XVI. Et ben voilà, c'est un peu comme pour les Français ou les Louis. On avait 16 possibilités à Copagne, on les a retrouvées. Alors, c'est vrai que quand on regarde maintenant la position de ce 16e personnage, ben je vais en prendre un qu'on repère tout de suite, c'est le 13e. Le 13e, ben obligatoirement, vous l'avez déjà sur le panneau de droite, hein, c'est-à-dire vous étiez en face avec les 4 premiers, vous êtes obligé de tourner, et là, vous en retrouvez 4 autres, et le 13e, 16, 15, 14, 13, eh bien ce 13e, lui, il est assez curieux parce qu'on a remarqué qu'il avait un nom qui se lit avec 3 barres et 3 petits points. Alors mentalement, ça nous fait 18, c'est-à-dire 3 barres égale 15, et puis les 3 points qui vont arriver à 18. Et on a trouvé un petit bonhomme assez curieux, une sorte d'animal avec une langue, avec une petite oreille assez curieuse, avec un petit nez assez curieux. Et on l'a traduit cela petit à petit en cherchant bien ce hiéroglyphe. On a vu qu'il y avait aussi le signe 13 Hell à côté, donc il est bien le 13e. Il y avait le 18, et cet animal, on l'a appelé Ba, parce qu'en maya, Ba, ça veut dire petit lapin. Alors vous avez le nom du personnage, Monsieur 18 Lapin, qui est né en 13e position dynastique. Alors c'est important. Alors vous avez envie de courir aussi sur tout le site et de chercher Monsieur 13 Lapin. Et Monsieur 13 Lapin, il a fait des choses extraordinaires. On sait maintenant, à cause de son nom, à cause de ses hiéroglyphes, on sait que la Grand Place que vous avez traversée tout à l'heure, eh bien, c'est lui qui a pratiquement fait sculpter tous ces grands arbres de pierre, ces stèles extraordinaires, tous ces autels qui sont devant ces stèles. Et il va même rénover pour la dernière fois le fameux jeu de pelote qu'on a croisé et ce fantastique temple 22 que vous apercevez au sommet de l'acropole avec ses sculptures, avec ses portes en forme de voûte maya. On peut dire que ça a été le roi des arts. Donc on a l'impression tout à coup que ce monsieur est un Louis XIV, un roi soleil qui a demandé des constructions incroyables. Et puis quand on continue à creuser, on voit qu'il y en a eu un 14e et que le 14e, lui, eh bien, il a vécu de façon étrange. Alors ça, c'est encore plus extraordinaire. Parce que tout à coup, on voit qu'il n'a vécu que 14 ans, j'entends, comme roi. On connaît sa montée au pouvoir, on sait quand il est mort, et on se dit, tonnerre, il y a eu une époque un peu troublée, 14 ans, c'est pas beaucoup pour un règne. Et puis quand on cherche et qu'on creuse, on voit qu'il y a eu quelque chose de tout à fait dramatique juste avant la mort de ce personnage, c'est que celui qui l'avait précédé, notre ami de tout à l'heure, la 18 Lapin, eh bien lui était mort le 3 mai 738, vous voyez que je suis très très précis de notre ère, mais qu'il a été tout simplement capturé et décapité par un voisin, par quelqu'un qui habitait à 50 km de là, par un chef de Quirigua, qui a réussi peut-être lors d'un jeu de pelote d'ailleurs, à l'attraper, à le vaincre ou dans une bataille, et finalement il est mort. Il est mort sur l'autel des sacrifices de la petite ville voisine qui était pourtant un satellite. C'est un peu comme si Carouge arrivait tout à coup à dominer Genève. Avouez qu'avec de simples hiéroglyphes, ce triomphe du gouverneur de Quirigua, qui se trouve juste derrière la montagne, c'est curieux. Juste avant 738, avant cet événement extraordinaire, vaincre un chef qui est à la fois un chef religieux, je dirais même un demi-dieu, c'est un peu comme prendre un pharaon, eh bien, ce personnage qui a réussi cette bataille, qui a réussi à vaincre ce grand chef, avant il n'y avait aucune stèle à Quirigua, il n'y avait rien de particulier qui avait été construit. Et d'un seul coup, depuis 738, on voit s'élever vers le ciel des choses incroyables. On va monter jusqu'à 10,50 m. Calculez. 10,50 m de pierre en hauteur, une seule stèle fichée en terre, avec au sommet, autour des 7 ou 8 mètres, la tête de celui qui a réussi cette bataille, qui a décapité son voisin. Donc le pouvoir à l'état pur, par cet arbre de pierre géant, est peut-être les plus beaux hiéroglyphes qu'on ait jamais su sculpter sur un site maya. Alors, vous voyez que quand on arrive tout à coup à être le 14e, à Copan, après avoir perdu peut-être son père, ou en tout cas celui qui vous précédait, comme cela, dans un drame absolu, ben c'est une époque difficile, c'est plus difficile de tenir le coup, bien sûr. Et ce 14e, ben, il va faire quelque chose de nouveau. On va l'appeler Fumé-Singe, j'aime bien son nom. Et que ça rappelle un peu nos noms d'Indiens, ces noms qu'on utilise aux États-Unis, où on pouvait s'appeler Bison Futé ou autre chose. Bien, les noms Maya étaient à peu près identiques. Et lui va construire le Popolna. Oh, c'est la maison de la communauté. Il va changer les systèmes de pouvoir. Il va construire quelque chose de très beau et sur toute la maison, il va faire graver un symbole que j'aime bien chez les Mayas. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait s'asseoir en tailleur. Or, être assis en tailleur, c'est être assis sur un trône. Mais sur le trône, il y aura obligatoirement, sur le sol aussi, une natte. Or, une natte, elle est tout simplement tressée. Et un Maya, quand il dit natte, il dit pop. Et quand il dit pop, il dit pouvoir. Parce que c'est le symbole même du pouvoir. Quand vous rentrez chez un Indien aujourd'hui et qu'il a une statue, ou dans une confrérie religieuse, ou dans l'église, et qu'il se passe quelque chose de très sacré, immédiatement l'Indien arrive avec son petit rouleau et il déplie sa natte. Cette natte qui n'est pas très souple d'ailleurs, qui refuse de s'aplanir totalement, mais enfin, une statue de saint, un bon saint catholique, sera toujours posée sur une natte. Et puis si vous-même devez vous asseoir par terre pour une cérémonie, vous allez déplier votre natte. C'est le pouvoir, c'est le support du sacré. Eh bien, il a fait cette maison de la natte, cette maison de la communauté. Au lieu qu'elle soit en bois ou toute simple, tout le toit, toute la partie supérieure de ce superbe palais avec ses 3 grandes portes de pierre est naturellement sculpté comme s'il s'agissait d'une natte. Une véritable mosaïque, comme si vous aviez posé un tapis sur la façade. Le 16e souverain, le 14e, le 13e, pourquoi pas le 15e? Tiens, le 15e, j'avoue que c'est un personnage à Copan. On connaît son nom maintenant. On a deviné grâce au hiéroglyphe qu'il s'appelait Fumé-Escargot, Humo Caracol, comme on l'appelle en espagnol. Et lui, il a construit quelque chose qui m'a toujours fasciné. Quand pour la première fois je suis arrivé à Copan et que je me suis retrouvé devant cette stèle, et puis derrière cette stèle, il y avait un hôtel, bien sûr, comme d'habitude, cet escalier. Un escalier, montez votre regard, laissez vos yeux glisser. et vous allez voir qu'il y a plus de 1250 blocs et que tous ces blocs sont sculptés. Il y a plus de 2500 hiéroglyphes. C'est la plus grande inscription que les Mayas nous aient laissée. Et ce souverain, il a fait sculpter tout cela en mettant au centre de l'escalier des personnages qui sont assis. Si ma mémoire est bonne, il y en a 5. Il y a des souverains qui sont sur des trônes éblouissants avec des tapis, avec des plumes, avec de la fourrure, eux-mêmes harnachés de façon incroyable, avec des blocs de jadéite autour du cou, de grands pectoraux, des ceintures rutilantes. Il manque la couleur, bien sûr, mais ces personnages sont assis sur l'escalier, sont sculptés comme s'ils étaient assis sur l'escalier. Et on sait aujourd'hui qu'il s'agissait non seulement de notre cher Humo Caracol, c'est-à-dire la fumée escargot, mais de tous ces hommes qui l'avaient précédé, de ces grands souverains. Donc si je dis 15, il y avait sur l'escalier 14, 13. Enfin, ça a quelque chose d'assez fou de penser qu'il avait remis pratiquement le nom de tous les monarques antérieurs à sa vie. Et je vous dirais aussi qu'il les avait vêtus, qu'il les avait assis sur cet escalier comme s'ils étaient de grands guerriers. Et lui-même, il va ainsi narrer par ce texte qu'on a de la peine à lire parce qu'au cours des dernières décennies, lorsque pour la première fois on a voulu reconstituer cet escalier qui était pétri, qui a été brisé par les racines parce qu'il y a de la jungle, il y a aussi une végétation incroyable à Copan. Quand on voit encore ces arbres qui pénètrent à l'intérieur des constructions, on se dit que tout a été bousculé. Quand on a refait l'escalier, on a peut-être un peu mélangé les hiéroglyphes, on a peut-être un peu mélangé le texte. On aura quelques problèmes pour refaire cette inscription de façon précise. Mais enfin, ce qui est lu est lu. Et ce que nous pouvons lire est à lire et doit être encore complété. Mais des textes écrits avec des batailles, avec des conquêtes, avec des événements d'une importance qui nous paraissent aujourd'hui déterminantes, parce qu'au fond, cette importance-là, on la devine chaque jour un peu plus. Et autour de ce monument, il y en a encore une bonne douzaine d'autres. Notre Yakshpaksh, je vous ai pas traduit son nom, c'est vrai que j'aime bien. En espagnol, on l'appelle Madrugada ou Sol Naciente, celui qui est né le matin comme le soleil. Ce soleil qui se lève comme cela, peut-être un presque le dernier, dirait-on, parce que juste derrière lui, il n'y aura plus qu'un grand souverain à Copan. Et on le voit très souvent, cet innovateur, cet homme qui a fait des trônes éblouissants, des stèles incroyables, il a innové aussi quelque chose où l'on voit systématiquement le support du monde, des bacabs qui soutiennent le monde, des sculptures qui nous montrent que le monde est un plateau et qu'il y a quatre coins qui sont suspendus. Avant, dans le passé, à la hauteur du 12e souverain, dans les années 600, peut-être 681, et celui qui s'appelait Fumé Jaguar a construit d'autres choses intéressantes. Il a voulu montrer qu'il était énergique, qu'il avait de la puissance. Il va régner de 628 à 695 de notre ère. Et durant sa vie, il va être capable d'ériger une dizaine de stèles. Or, des sculptures aussi incroyables prouvent qu'il faut non seulement un pouvoir, mais qu'il faut un attachement aussi à ce calendrier. Parce que il va devenir octogénaire? Ben voilà. Or, quand je dis octogénaire, dans ma tête, en même temps, j'ai découpé cela en quatre périodes de 20 ans. Vous y êtes? Vous êtes Maya? Eh bien, sur l'autel que nous avons vu tout à l'heure, si je recherche la 12e position, je vois qu'on a écrit qu'il s'appelait 5 Katoun. Qu'est-ce que ça veut dire, 5 Katoun? 5 fois 20. Et oui, pour un Maya, il était déjà rentré dans la 5e vingtaine de sa vie. Donc, il avait atteint un âge impossible, un âge incroyable. C'est un peu comme Mathusalem, où vous diriez 7 fois 7 fois 7, et qu'il a vécu 144 ans, ou même beaucoup plus. Eh bien, pour ce personnage, atteindre le 5e Katoun, c'est atteindre le déséquilibre absolu. Passer le 4e, c'est s'imaginer déjà être plus loin que l'au-delà, un véritable dieu. Et c'est comme cela qu'on l'a appelé. On a oublié son beau nom, et au lieu de l'appeler Fumé Jaguar, on l'a appelé 5 fois 20.
On a
l'impression d'ouvrir un calendrier de l'Avent. On a l'impression qu'on est en train d'ouvrir chaque petite case de l'histoire de Copan. Des volets qui nous font découvrir, par exemple, le 11e souverain. Ben, je connais certaines stèles superbes où l'on voit Butzchan. J'aime bien son nom, Butzchan. Oh, vous pourriez le traduire de deux manières. C'est du maya, bien sûr. Vous pourriez le traduire en disant, je ne sais pas, par exemple, fumée serpent ou éventuellement fumée ciel. Pourquoi ? Ben, parce que pour un maya, le ciel et le serpent, c'est la même chose. Donc, vous pouvez le traduire comme vous l'entendez. Dès que vous dites Chan, Chan, c'est le serpent. Kan, selon la langue maya ou la région. Kukulkan, vous vous rappelez de Kukulkan, le serpent à plumes précieuses. Ben, des noms qu'on retrouve un peu partout. Et c'est un homme qui est monté sur le trône. Là, je suis en train mentalement de le regarder. Je vois cette stèle où il tient son sceptre, où il tient son bâton de pouvoir avec les poignets relevés, comme cela, comme s'il tenait un bébé sur les bras. Et c'est lui qui a la force. Et on sait qu'il est monté sur le trône à l'âge de 15 ans. Et qu'il va régner depuis, on sait qu'on est extrêmement précis, depuis lors jusqu'au 23 janvier 628. Donc, 49 ans plus tard. C'est incroyable. Il y a eu des souverains qui ont régné comme cela presque toute une vie. Et c'est vrai que entre lui, l'homme jaguar de tout à l'heure, notre fumée jaguar, et puis notre 18 lapins, à eux trois, ils vont régner 160 ans, de 578 à 738 de notre ère. À peu près toute l'histoire majeure des Mayas en trois fois. Alors bien sûr que c'est l'époque principale où on aura surtout, alors je dirais, à Copan, une explosion démographique, où on aura un problème politique, bien sûr, qui va se poser. Il faudra régner de façon de plus en plus puissante. Il y aura des changements sociaux, artistiques, ça je crois qu'on les ressent bien maintenant. On vous a parlé un tout petit peu de cet art très curieux. Et puis, je vous dirais qu'en 89, on a découvert quelque chose d'intéressant. On a pénétré à l'intérieur d'un temple et là, tout à coup, on a réussi à retrouver une structure ancienne qui a justement été bâtie par notre 11e souverain. Des couleurs comme je n'en ai jamais vu. On l'appelle d'ailleurs Rosalila. Il était rose et lilas, un temple d'une couleur extraordinaire, d'une pureté, avec des détails, avec des sculptures en ronde bosse, avec du stuc qui nous montre des alliances entre la plume et la fleur, avec des arabesques, je suis encore dans ce baroque maya. Un temple que l'on peut visiter uniquement si l'on est invité à pénétrer dans un de ces tunnels. On peut faire des dizaines, des centaines de mètres à l'intérieur des pyramides de Copan, et chaque jour on creuse davantage, chaque jour on va plus loin. Et c'est souverains, le 10e, le 7e, le 8e, le 9e, tout à coup on les découvre là à l'intérieur du gâteau, on les connaît un peu mieux. Il y a des personnages qui sont un peu moins connus, le 5e et le 6e, on n'a jamais trouvé véritablement leur identité. Le 4e et le 3e, on commence à peine à les identifier. Le 2e, il est complètement inconnu. Mais attention, le 1er, vous l'avez déjà rencontré tout à l'heure. Il était face au 16e. Et ce premier, c'est vraiment celui que je vais appeler le grand fondateur, le fondateur de toutes choses. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de découvrir que cette dynastie royale de Copan, elle commence avec celui qu'on appelle Yakshkukmo. Et Yakshkukmo, on le retrouve partout. Comment je pourrais vous traduire Yakshkukmo ? C'est pas facile de parler français dans ces moments-là. Le Quetzal, c'est l'oiseau de tout à l'heure, avec ses superbes plumes vertes. Et puis Guacamayo, en français, ce serait le perroquet. Hein, une sorte de perroquet, à la fois perroquet et en même temps Quetzal. Donc un oiseau superbe, c'est celui qui tout à l'heure donnait ce bâton de commandement à Yakshpaksh sur l'autel de consacration du pouvoir en fait. Et maintenant que vous avez fait le tour de cet autel, eh bien vous pouvez légitimer ce passage. Et on a retrouvé, je crois que c'est en 1988, on a retrouvé à l'intérieur d'une structure, ben, ça me fait penser que je l'ai encore revu l'autre jour et j'ai été très touché parce qu'on a encore nettoyé l'endroit, on travaille toujours et on va continuer à travailler. Et on a découvert une stèle, bon, on va l'appeler 63 parce qu'il faut bien lui donner un numéro, et là-dessus, on s'est rendu compte qu'on parlait de ce premier souverain. Et curieusement, on disait que l'événement majeur de son règne avait commencé au moment où l'on écrivait 9-0-0-0-0, le 9e Bakhtun, ce fameux 9e Bakhtun qui est le début du temps des Mayas classiques. Donc ce monsieur a simplement voulu nous dire qu'en 435 de notre ère a commencé la dynastie avec le 9 qui est le véritable chiffre sacré. Et c'est quand même curieux que même s'il est monté au pouvoir en 426, je vous disais 435 tout à l'heure, eh bien non, on a décidé que son histoire commençait véritablement en 435. Un peu comme s'il fallait naître, et nous en avons déjà parlé à l'occasion à Tikal, il fallait naître et commencer le pouvoir à une date précise pour que le chiffre soit parfaitement rond. Et vous allez voir que 400 ans plus tard, au moment où on va écrire 10-0-0-0-0, il n'y aura plus de vie à Copan. Ce sera un peu une conclusion dramatique, et je la trouve touchante parce qu'au fond, lorsque le 16e souverain va mourir, et qu'il va passer le pouvoir au suivant, eh bien, il y aura des événements majeurs à Copan. Et cette dernière vingtaine du temps va être tellement dramatique qu'au moment où, lors de la succession, on va refaire un hôtel de pierre, rappelez-vous, cette immense table, et 4, et 4, et 4, et 4, les souverains, lorsqu'on dira 17 et non pas 16, on commencera à tailler. On commencera à voir la forme d'un personnage. On débutera juste par les hiéroglyphes pour vous donner la date exacte du calendrier solaire. Et puis on posera le marteau. La vie s'arrêtera à Copan, comme si tout à coup, ce balancement du temps, cette exactitude des mathématiques, avait fait que 400 ans, c'était suffisant. 20 fois 20, c'est comme Mathusalem. C'est sacré, ça ne se touche pas, mais ça peut mourir. XVIe gouverneur, monté au pouvoir le 2 juillet 763. Moi, je le pense en maya, je l'écris en maya. 9, 16, 12, 5, 17. Vous vous rappelez de la date de l'hôtel de tout à l'heure? Non, vous allez me dire non, bien sûr, mais cette date est une date qui est complexe. Quand je dis 9, 16, 12, 5, 17, il n'y a pas de chiffre rond, il n'y a rien de particulier. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il va mourir, en tout cas, avant 920 de notre ère. On ne connaît pas la date exacte, mais on sait que cette date qui s'écrit 9-19-10-00, c'était juste avant qu'on écrive 10-00-00, eh bien, il disparaît. Et le monument suivant sera construit, je dirais même sculpté, puisqu'il s'agit d'un hôtel, par le 17e souverain de Copan, Ouchitoc. Il va monter au pouvoir avec un petit point d'interrogation le 10 février 822. Donc il n'a pas attendu longtemps, mais ça s'écrit encore 9, 19, 11, 14, 5, si je le traduis immédiatement. On n'est pas encore au dixième. Mais par contre, on pense qu'il va mourir justement au moment où l'on balance le temps sur la fin de ces 400 ans sacrés. C'est une façon d'écrire. C'est un peu comme si je disais 1900. Ou que je disais 2000, 1800, 1700, ce sont des dates rondes. Donc si je commence en zéro, tout à coup, je sais qu'en l'an 2000, ce serait la fin des temps, par exemple. Donc, il suffirait que maintenant, juste avant la fin de notre siècle, vous ayez un souverain qui meurt et un autre qui monte au pouvoir. Et effectivement, comme vous allez volontairement arrêter la sculpture, arrêter le temps, et que vous n'allez même pas mentionner sa mort, 2000 est là. 2000, c'est la fin. Ça se respire comme ça. Alors, quand on voit aussi le site et qu'on le connaît, maintenant, regardons-le d'ensemble. Copan, attention, ça n'est pas que l'acropole, le jeu de pelote, les choses que nous venons de visiter et toutes ces stèles et ces hiéroglyphes. Non, c'est en même temps quelque chose comme une bonne vingtaine de kilomètres carrés qui sont autour du groupe principal. Mais moi, ce qui m'effare, c'est qu'au cours des dernières recherches, on a répertorié 3450 édifices pour Copan. C'est quand même fabuleux. Et il y en a à peu près 1000 qui se trouvent justement là, dans le plein centre, tout près de cette acropole. Alors, quand on sait que, quand on va un peu plus loin dans la vallée, cette superbe vallée fertile, on arrive ensuite à prendre jusqu'à 4500 édifices pour l'ensemble, et que là, au moment du 8e siècle, il y avait 20 000 habitants, je vous dirais que curieusement, il y a quelques années encore, en 1980, on venait de passer le cap. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre depuis les années 700 de notre ère pour arriver à la même population qu'à la grande époque classique chez les Mayas. Vous me saisissez? On vient d'avoir la même population qu'à l'époque. Or, Copan, c'est une véritable ville. Copan, c'est un endroit agricole très riche. Mais si en 1980, on a passé par-dessus le cap de cette population antique, je vous dirais que c'est aussi à ce moment-là qu'on a découvert ce qu'on appelle les sépultures. Alors, marchez là, partez le long de ce sentier-là, depuis la stèle J, qui est dessinée d'ailleurs comme une natte assez curieuse. On a rempli les casiers de la natte avec des hiéroglyphes, et puis là, vous allez trouver ce qu'on appelle un sac B. Un sac B, ou des sacs B-hob au pluriel, ce sont des routes complètement lisse, complètement stuquée, parfaite, des routes cérémonielles. Vous allez franchir 2 kilomètres mentalement à travers la verdure, à travers les arbres, le long de cette rivière de Copan, et vous allez arriver dans ce quartier incroyable des sépultures. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Mais on sait effectivement que là, peut-être déjà 1000 ans avant Jésus-Christ, on a commencé à vivre, et que dans cette vallée de Copan, je vous l'ai dit, entre 435 et 830, entre 9 et 10 par rapport au nombre de multiples de 400, il y a une vie incroyable. Et ces sépultures, c'est une centaine d'édifices, c'est à peu près 200 salles, 200 pièces différentes, avec chaque fois des voûtes pour rentrer, très rarement des fenêtres, mais enfin, comme si on avait un peu le confort d'une hutte. Alors, je dirais 200 huttes de pierre, les unes à côté des autres. C'est la première fois que l'on trouve chez les Mayas, c'est unique, une zone non seulement urbaine, mais domestique. C'est-à-dire où l'on retrouve un endroit pour vivre qui est construit en dur et non pas avec des huttes comme les utilisent encore les Indiens d'aujourd'hui, avec du bambou, avec simplement un peu de chaux, enfin de ce cal, comme on l'appelle, et puis simplement la paille ou les palmes sur le toit. Non, non. Là, tout à coup, on a remarqué qu'il y avait toutes les classes sociales existantes dans un seul endroit. Je dirais même qu'on peut couper cela en 4 parties, entre le riche et le pauvre, entre l'esclave et le grand scribe, ou je dirais même le premier ministre. Eh bien, ça représente quand même une histoire incroyable au point de vue archéologique. On a 2000 ans d'histoire sous la main, et tout à coup, on voit qu'aux alentours de 780 de notre ère, à la fin de l'histoire, il y avait ici une partie de la cour de notre 16e souverain, rappelez-vous de Yakshpaksh, notre soleil de tout à l'heure, qu'il a installé une partie de sa cour dans des patios, dans des zones bien fermées, avec autour ces palais qui créent une sorte de carré parfait autour, avec des escaliers bien sûr, des esplanades, toujours ces entrées monumentales avec à l'intérieur des banquettes de pierre recouvertes de stuc et encore des sculptures, encore des hiéroglyphes. Les façades sont décorées. Regardez celle-là, elle sort véritablement de l'ordinaire. Il y a un personnage qui est sculpté. Ah, il y en a encore un autre à côté. Il a la main tendue, il est en ronde bosse, c'est véritablement une sculpture. Regardez dans sa main, qu'est-ce qu'il a? C'est coupé? Ça ressemble étrangement à... Mais oui, c'est un escargot découpé. C'est un escargot qui a été fendu dans le sens de la longueur. Et si vous tenez un escargot assez long, vous savez, ces grandes conques que l'on tient comme cela bien dans le creux de la main, vous n'avez qu'à mettre un peu de peinture rouge, un peu de peinture noire. Il tient un pinceau dans l'autre main. C'est le grand scribe de Copan. Il est là. Il est là comme il a été posé, vivant, sur ce lit extraordinaire, avec l'histoire de sa petite dynastie de scribes. Son histoire à lui, son histoire de noble, parce que lorsqu'on est scribe, on a tous les pouvoirs, on a toutes les connaissances, on a été capable d'inscrire l'histoire dans les stèles ou sur le papier, sur ce simple papier de figuier sauvage que l'on déplie comme un accordéon sur 10 ou 20 mètres, avec un peu d'encre rouge, avec de l'encre noire. L'histoire, celle des dieux, celle du temps, celle du cosmos, la vie de Copan. Il fait très chaud en avril, en mai, jusqu'en juin. On a brûlé les champs, on a planté le maïs, on attend la pluie. 40 degrés, 50 degrés parfois. Et puis le reste de l'année, des températures estivales agréables. Copan, l'eau coule. tout pousse. Vous êtes assis en tailleur sur des coussins, il y a quelques peaux de jaguar devant vous, et puis beaucoup de femmes, des femmes qui sont dehors avec des textiles sublimes. Certaines travaillent, on vit dehors, on vit beaucoup dans ces patios. Le palais, c'est une zone résidentielle, bien sûr, mais ce qui a quand même surpris les archéologues, c'est de voir que, d'ailleurs on nomme cet endroit les sépultures, c'est que dans les enterrements, il y en a plus de 250 qui ont été retrouvés sous ces palais. Carrément, sous les bâtiments, sous les structures, sous les escaliers, on a retrouvé des tombes. Mais dans ces tombes, il y avait naturellement des hommes. Il y avait des gens aussi importants que ce sorcier que l'on a retrouvé, ce grand mage avec sa bijouterie, et puis ce noble aussi, incroyable. Mais on a retrouvé surtout des femmes. Des dizaines de femmes par rapport à un seul homme. Vous me suivez? Le Maya était polygame. Et lorsqu'on était noble, on avait sa cour, mais on avait surtout ses femmes. Une sorte de... Oh, je ne dirais pas harem, parce que ça n'est pas le cas. Il y a une certaine ouverture d'esprit chez le Maya. Il y a une certaine ouverture d'architecture aussi. On a l'impression que ces quadrilatères sont fermés les uns sur les autres. Vous avez une sorte de vie interne, mais vous pouvez vous glisser par un petit couloir, par un labyrinthe pour en sortir. Il n'y a rien de clos, il n'y a rien de totalement fermé. Et les excavations qu'on a fait au cours de ces dernières années nous ont même révélé que tout près, là, de cette maison du scribe, qui est sublime, ce palais incroyable, il y avait par exemple un édifice qui était tout près, je le disais, mais qui était surtout contigu avec des enterrements curieux. C'était une quantité d'abord des matériaux et puis des choses rituelles avec des objets qui font penser au jeu de pelote. Alors on a pensé qu'effectivement il y avait peut-être des équipes qui s'entraînaient ici, des jeunes, comme on le ferait pour un véritable sport, qu'il fallait entraîner avant qu'ils puissent jouer sur l'aire centrale de la zone cérémonielle. Donc de véritables sportifs au service d'un chef dans cet ensemble résidentiel. Ça, c'est tout nouveau aussi. Jamais on avait pensé qu'on pouvait s'entraîner. Bien sûr, ça paraît logique, mais enfin, le trouver physiquement, c'est aussi une révélation. Et puis on a trouvé qu'il y avait des personnages secondaires étranges, qu'il y avait ce qu'on appelle des Lencas. C'est une autre tribu, ils ont une autre forme de tête, ils n'ont pas exactement les mêmes traits sur le plan anthropologique. Et on a remarqué que cette tribu, qu'on croyait totalement exclue par les Mayas, ben, au contraire, elle est très présente parce que on a l'impression qu'ils ont servi à tous. C'est eux justement qui tissaient, c'est eux qui travaillaient. On a trouvé des épingles, on a trouvé tout ce qui faisait la cuisine, on a trouvé que c'était un peu les bonnes du coin, que c'était un peu les servants du coin. Donc il n'y avait pas on ne pense pas qu'il y ait un véritable esclavage chez le Maya, mais enfin voilà, une tribu qui a dû travailler pour eux. Et puis on a trouvé alors quelque chose d'encore plus incroyable, ce sont les poubelles. Alors, ce qui intéresse véritablement un archéologue, c'est ce qu'il y a dans la poubelle. Bien sûr, il y a des céramiques, il y a des restes d'aliments, il y a des pierres à moudre, il y a du maïs, il y aura de l'obsidienne, cette pierre vitrifiée, cette pierre volcanique qui sert de rasoir, qui peut servir de couteau. On va retrouver tout ce qui faisait justement ces moments de nourriture, des restes de haricots, on va trouver des restes de poisson, il suffit d'une petite arête, ça vous suffit, on va retrouver une petite dent de rabali, c'est-à-dire de sanglier. On va pouvoir refaire pratiquement toute la flore et toute la faune de ces années 700. On va voir comment le Maya se nourrissait. Pour la première fois, on va trouver des cuisines dans un centre cérémoniel. Ça paraît étrange de dire cela, mais à nulle part ailleurs, des 70 villes que l'on connaisse aujourd'hui, des 70 sites avec ces immenses pyramides comme Attica, jamais un foyer, jamais une pierre à moudre, jamais quelque chose qui ferait penser que tous les jours on doit manger. Non, non, des plateaux pour le service, des huttes à l'extérieur, mais à Copan, une véritable zone résidentielle. Et ça, c'était intéressant. Les enterrements aussi ont été intéressants. Ce sorcier, ce chaman que l'on a retrouvé, qui est enterré en 450 de notre ère, ce cacique qui a été enterré en 900 de notre ère, avec des centaines de pièces de jade, de céramique, ça nous a appris beaucoup plus que certains des hiéroglyphes de tout à l'heure. Et on a remarqué que finalement, lors des dernières décades, il y a eu une explosion démographique sans précédent, que on a coupé les forêts, on a eu besoin de trop de bois pour la construction, de trop de bois pour le chauffage, pour préparer la chaux. La forêt disparaît. Elle disparaît comme elle disparaît aujourd'hui chez les Indiens. Il y a l'érosion, il y aura les problèmes climatiques. On a remarqué que dans les enterrements, les enfants de 15 ans avaient faim, qu'effectivement, on a eu faim à Copan dans les années 700, au début des années 800. Des drames, des maladies, des croissances étranges, de la dénutrition. On se croirait en plein 20e siècle. On vient d'avoir 20 000 habitants à Copan. Le danger agricole commence. Il y a du tourisme, d'accord. Mais à l'époque, il fallait manger, il fallait aller toujours plus loin. Finalement, ce site est abandonné. Rappelez-vous, Uxitoc, qui lui, d'un seul coup, devra poser son marteau au moment de l'érection de son hôtel, au moment où il monte au pouvoir. Eh bien, après Yaxchikukmo, après ce premier grand souverain, il y en aura 16 autres. Le 17e arrivera dans une période difficile. Et c'est ainsi que, d'un seul coup, le site va mourir. Non pas abandonné complètement, mais il faudra des dizaines, peut-être des centaines d'années pour que la forêt reprenne place, qu'elle récupère la terre et que finalement les Mayas de Copan redeviennent, après des siècles, des gens civilisés qui vont aujourd'hui atteindre 20 milliers, 30 milliers d'habitants. Attention, le Honduras, c'est loin, il y a de la campagne partout, mais toute l'Amérique latine peut avoir faim un jour. Pensez aux Mayas, une civilisation commence et 400 ans après, juste avant l'an, je n'ai pas envie de dire 2000, tout disparaît. Thank you.